Bonjour, chers frères. J'espère que vous appréciez ce jour de sabbat et que vous avez pu prendre le temps de fraterniser et de profiter de la matinée. Je voudrais aborder un sujet aujourd'hui. C'est un peu différent. Je vais adopter une approche légèrement différente de celle que j'adopte normalement dans un message, mais je vais aborder un sujet qui est très important. Il est omniprésent dans notre christianisme, mais souvent nous n'y pensons pas. C'est vraiment un aspect fondamental de la construction de la foi en vous et moi que de pouvoir s'assurer que nous comprenons comment Dieu travaille dans nos vies. Vous dites donc que Dieu agit dans nos vies, d'accord, c'est important, mais c'est quelque chose sur lequel la plupart d'entre nous se concentrent rarement, ou du moins si nous le faisons, cela a tendance à être un peu indirect. Permettez-moi donc de revenir en arrière et de parler de quelque chose de complètement différent. Êtes-vous déjà allé dans une galerie d'art? Comme je l'ai dit, il s'agit de quelque chose de complètement différent. Êtes-vous déjà allé dans une galerie d'art? Surtout si vous êtes allé dans une galerie célèbre où l'on trouve des peintures ou des sculptures très connues. Si vous avez déjà vu une sculpture de Michel-Ange, vous êtes probablement capable d'en repérer une autre du même artiste. C'est encore plus vrai pour certains peintres. Si vous connaissez Picasso et que vous entrez dans une galerie d'art et que vous voyez quelque chose, même si vous êtes trop loin, peut-être que vos yeux ne sont pas assez bons pour voir le petit panneau en bas, mais que vous voyez une peinture avec ses coups de pinceau qui sont la signature de Picasso, vous regardez et vous dites: Oh, c'est une peinture de Picasso. Ou au moins, à tout le moins, quelqu'un qui imite Picasso. Je pourrais citer Monet. Oh, c'est de Monet. Parce que vous le voyez, vous reconnaissez les traits, les coups de pinceau, les effets. En fait, le style de ce peintre, ou s'il y mettait l'empreinte de son pouce, on pourrait dire ses empreintes digitales. C'est facile à reconnaître. Et avec le temps, plus vous avez d'expérience, si vous étiez dans l'art, comme vous le savez, j'ai un jeune enfant, et ma femme, et il regardera des livres d'art alors qu'il apprend à comprendre les artistes. Et ils deviennent bons. Je les entends dire, est-ce que c'est da, da, da? Ou est-ce que c'est cette personne? Ou c'est cette personne? Parce qu'il commence à le reconnaître. Il commence à comprendre ses coups de pinceau, à reconnaître le style ou l'approche de cet artiste. Oh, mes frères, spirituellement, nous devons faire la même chose, n'est-ce pas? Nous devrions au moins penser à l'approche de Dieu, au style de Dieu, aux empreintes de Dieu dans les affaires. Il a la capacité, tout comme ces artistes, et de manière bien plus impressionnante et profonde, d'avoir sa main, son style d'empreinte digitale, son implication dans divers aspects de votre vie et de la mienne, mais parfois les empreintes digitales de Dieu, la main de Dieu, le style de Dieu, ou sa manière de faire les choses ne sont pas toujours immédiatement apparentes. Parfois, il nous faut regarder en arrière, réfléchir, penser ou inspecter quelque chose pour pouvoir le remarquer. Et lorsque nous y parvenons, cela renforce la foi, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons Dieu agir directement dans nos vies ou à travers d'autres personnes, nous sommes l'Église, ou les diverses choses que nous allons examiner aujourd'hui, cela construit la foi en vous et moi parce que nous voyons l'implication directe de Dieu. Et quand Dieu est impliqué, cela construit la foi et cela construit aussi l'assurance ou la confiance. Aujourd'hui, examinons donc les empreintes de Dieu dans toutes nos vies et comment les repérer. Comme je l'ai déjà dit, ce sermon devrait construire votre foi. En examinant les différentes façons de repérer Dieu dans nos vies, notre foi devrait s'en trouver renforcée. Et avec le temps, cela renforce notre capacité à faire confiance à Dieu. Nous allons commencer par parler de notre vie personnelle, puis, au fur et à mesure que le message se développera, nous serons capables de voir les empreintes de Dieu, non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres, dans son œuvre, dans son Église et, en fin de compte, dans la façon dont il accomplit son plan. Vous pouvez ouvrir vos Bibles au chapitre 1 de Jacques. Comme je l'ai dit, il est parfois difficile. Jacques, chapitre 1. Il est parfois difficile, sur le moment, de voir la main de Dieu. Si vous êtes miraculeusement protégé ou si vous êtes dans un accident de voiture et que vous avez réussi à éviter un autre véhicule et que vous vous en sortez, vous voyez la protection de Dieu. Parfois, c'est évident. C'est l'intervention divine. C'est facile. C'est une source d'inspiration. Elle renforce la foi. Oui, mais c'est facile. Nous voulons plonger un peu plus profondément aujourd'hui et voir les empreintes de Dieu dans les petites choses lorsque nous examinons et regardons la parole de Dieu. Ce sont les petites expériences, et celles-ci, franchement, sont presque impossibles à voir sur le moment, ce qui signifie que vous et moi devons y réfléchir dans la prière, l'étude et la méditation. Nous devons donc réfléchir à ce que nous avons vécu ce jour-là, cette semaine-là, ce mois-là, cette année-là, surtout à l'approche de la Pâque. Regardons-nous, examinons-nous, regardons l'année écoulée et pensons à ce que Dieu a fait dans nos vies. Ces petites choses s'accumulent. Ce sont les choses que la plupart des gens vous diraient, « Ah, ce n'est qu'une coïncidence. » Frères et sœurs, nous savons faire la différence entre la coïncidence et la main de Dieu. Bien sûr, il y a le temps et le hasard, mais le temps et le hasard ne que peu de explique choses dans notre vie. C'est l'accumulation au fil du temps de ces éléments qui construisent la foi, de ces petites choses, de ces petites bénédictions qui font la différence, mais nous devons réfléchir pour pouvoir les voir. Vous êtes déjà dans le chapitre 1 de Jacques. Nous commencerons au verset 16, juste deux versets ici, Jacques 1, 16. Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout bien et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variabilité, ni ombre de changement. Dieu est Dieu, et il ne change pas. C'est ce que dit le verset, mais aussi le fait que tous les bons dons que vous et moi avons viennent de lui. Vous voyez, de mauvaises choses peuvent nous arriver. Il peut y avoir des cas où quelque chose va mal, et ce n'est pas nécessairement Dieu qui nous teste ou même Satan qui essaie de nous mettre à l'épreuve. Parfois, c'est le temps et le hasard. Cela arrive tout simplement. Vous pourriez être en train de marcher dans la maison ou dans un bâtiment, et il y a une porte en verre parfaitement propre, et vous marchez à toute vitesse en plein dans la porte en verre, et vous vous cassez le nez, c'est le temps et le hasard. Cela arrive, c'est tout. Ce n'est pas Dieu qui teste votre foi pour voir si vous comprendrez qu'il, non, cela arrive tout simplement. Parfois, les choses arrivent simplement, mais ce verset dit clairement que tout don bon et tout don parfait vient d'en haut. Ainsi, lorsque de bonnes choses arrivent, ce n'est pas le temps et le hasard. Lorsque des choses parfaites arrivent, ce n'est pas le temps et le hasard. Dieu dit clairement que les petites choses, les choses parfaites, les bonnes choses viennent de lui. Nous arrêtons-nous parfois pour réfléchir à ce que cela signifie? Quelles sont les petites choses que vous vivez dans votre vie chaque jour? Avez-vous de la nourriture sur la table? C'est si simple. Vous demandez une bénédiction pour vos repas et vous demandez à Dieu de les bénir, mais en tant qu'êtres humains, nous pouvons entrer dans des schémas qui ne sont que de la routine. C'est pourquoi nous devons être prudents avec la prière. Si vous ne contrôlez pas votre esprit dans la prière, vous savez ce que vous ferez. Vous aurez une certaine prière que vous ferez chaque fois pendant le repas, et votre corps en prendra l'habitude. Votre esprit en prendra l'habitude et vous ne demanderez pas une bénédiction pour le repas. Vous récitez simplement, comme le ferait un catholique. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas demander une bénédiction. Nous devons veiller à ne pas prendre l'habitude de supposer des choses encore et encore, et nous devons examiner nos vies. Et quelque chose d'aussi simple qu'une assiette de nourriture sur devant nous, nous devons nous rappeler que c'est une bénédiction. Nous devons nous rappeler que Dieu dirige les choses dans notre vie pour nous permettre d'avoir de la nourriture. Si vous avez vécu des situations difficiles et que la nourriture était disponible ou que quelque chose s'est arrangé, vous pouvez voir la main de Dieu plus clairement, mais vous et moi, frères, si nous ne vivons pas ces choses, nous quand même devons voir la main de Dieu. Un abri, la sécurité, des choses que vous et moi considérons comme allant de soi. Voyons-nous la main de Dieu les guider? Encore une fois, ce sont des petites choses, des choses sur lesquelles il faut revenir. Vous n'allez pas y penser lorsque vous vivez vos activités quotidiennes normales et que les choses s'arrangent et se déroulent comme prévu. Vous ne le remarquerez pas sur le moment parce que vous vivez votre vie, et que les vies sont bien remplies. Vous avez des enfants, l'école et le travail, et tous les besoins et nécessités qui tendent à nous tirer dans différentes directions. Il faut s'arrêter à la fin de la journée, le lendemain matin, dans la prière, pour réfléchir à la journée écoulée. Peut-être que lorsque vous êtes couché dans votre lit et que vous vous endormez, vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que je réfléchisse à Jacques 1:17, qui dit que toutes ces choses bonnes et parfaites viennent de Dieu ?» Lorsque vous faites cela, vous voyez de petites choses qui fonctionnent, que vous n'avez peut-être pas remarqué sur le moment, mais qui ont fonctionné juste un peu trop bien. C'est ce que vous recherchez. Quelles sont les choses qui ont un peu trop bien fonctionné? Et je ne veux pas que cela paraisse banal, mais cherchez les choses les plus infimes. Car plus nous y réfléchissons, plus nous nous souvenons que tout don bon et parfait vient d'en haut. Comme quelque chose d'aussi simple. J'aime beaucoup la logistique. Si vous vous promenez dans un endroit, que quelqu'un ouvre une porte, puis qu'elle se referme, et que vous réussissez à passer parfaitement, et que le timing est bon, ou si vous arrivez à un stop, et qu'il n'y a pas d'autre circulation, alors vous pouvez y aller, ou si le feu passe au vert juste au moment où vous vous arrêtez, et maintenant vous êtes alors au travail, alors que vous étiez peut-être en retard auparavant. Ce sont de petites choses, de petits exemples. Peut-on les mettre sur le compte du temps et du hasard? Oui, c'est possible. Mais Jacques 1:17 dit que ce n'est pas le temps et le hasard. Pas quand on est chrétien, pas quand Dieu dirige nos pas. Des choses, comme un beau coucher ou un lever de soleil. Très simple. Sur le campus, de par la position de notre maison, nous regardons de haut en bas, vers le bas du campus, vers le haut. Et nous avons l'occasion de voir des rayons de soleil ou des levées de soleil, absolument incroyables. J'essaie de faire en sorte que lorsque je parle à mon fils le matin, nous parlions de Dieu et de la façon dont il a créé l'univers et de ses aspects, et nous avons pu profiter d'un de ces rayons de soleil. Nous devrions en être reconnaissants. Il est plus facile de se souvenir des petites choses lorsqu'on les enseigne, mais dans notre vie, lorsque nous les vivons pour nous-mêmes, cela peut être plus difficile et nous obliger à nous concentrer. Les choses quotidiennes auxquelles nous devrions nous intéresser également créent quelque chose d'autre en nous lorsque nous le faisons. Encore une fois, le plan de Dieu, le mode de vie de Dieu, est en grande partie une relation symbiotique, comme nous l'avons entendu dans la sermonette. Il s'agit de construire l'un sur l'autre. Nous construisons à partir de ce que Dieu nous donne. Nous le suivons. Il nous donne des cadeaux. Cela dépend de nous, de l'adorer et d'être un exemple. Tout cela se mélange. Et tout comme le fait de regarder nos bénédictions, Vous savez ce que cela provoque, en plus de construire la foi et de voir Dieu dans nos vies. Cela nous rend reconnaissants. La gratitude. Et avec le temps, cela devient une habitude. La gratitude est une activité qui crée des habitudes. Plus nous regardons les choses, plus nous en sommes reconnaissants, plus il nous est facile de voir des choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Et plus nous reconnaissons Dieu, ces petites choses, plus nous reconnaissons sa présence. Et encore une fois, cela construit la foi. Il s'agit donc d'essayer de voir la main de Dieu dans nos petites bénédictions quotidiennes. Comment voyons-nous Dieu dans nos expériences passées? Nous allons en examiner toute une série. Il se développera au fil du temps dans une structure similaire tout au long du message. Mais comment voyons-nous la main de Dieu, ses empreintes digitales, dans nos expériences passées? Parce que souvent, comme je l'ai dit, pour les petites choses, nous devons regarder en arrière pour les voir. Sur le moment, à moins qu'il ne s'agisse d'une épreuve grave, nous ne regardons souvent pas vers Dieu, n'est-ce pas? Si nous passons un bon moment, franchement, c'est ce qui est arrivé à Israël. Quand tout allait bien, ils ne regardaient pas vraiment vers Dieu. Parce que vous êtes dans l'instant. Vous êtes dans l'excitation. Vous êtes dans la vie, tout simplement. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Cela peut le devenir si nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir, si nous ne regardons pas les expériences passées pour voir comment Dieu nous a guidés, comment il nous a protégés, même quand c'était difficile, même quand cela ne semblait pas évident au début. Passons au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Romains 8. Nous commencerons au verset 24. Romains 8, verset 24. Le verset 24 dit, « Car c'est par l'espérance que nous sommes sauvés, mais une espérance qui se voit n'est pas une espérance. Ce qui est devant nous, nous le voyons. Si je vois, si j'ai ce verre d'eau, je n'espère pas le verre. J'ai le verre d'eau. Car ce qu'un homme voit, pourquoi l'espère-t-il encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce que nous devons demander comme il faut, mais c'est l'Esprit lui-même qui intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. L'Esprit de Dieu nous aide à savoir quoi demander à Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide à réfléchir et à nous souvenir de ce pourquoi nous devrions être reconnaissants, de ce que Dieu a fait dans nos vies. N'oubliez pas que l'Esprit peut nous rappeler à la mémoire. Ainsi, lorsque nous prions, nous pouvons demander à Dieu, « Dieu, aide-moi à me souvenir des choses que tu as fait dans ma vie. Aide-moi à voir les expériences passées, et cela peut être hier, le mois dernier, l'année dernière. Cela n'a pas d'importance. » Certaines expériences vous serviront à bâtir votre foi pour le reste de votre vie. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, mais je me souviens que lorsque je venais dans l'Ohio, je vivais encore au Canada et je venais en voiture tous les week-ends. Il n'y avait que 5 heures de route, 5 heures et demie d'où j'étais. Parfois, c'était une semaine complète, je sortais du travail et je descendais en voiture. Il se faisait tard, un vendredi soir. Si vous avez déjà conduit de Buffalo à l'Ohio, c'est l'une des routes les plus ennuyeuses que vous puissiez connaître. C'est tout droit. Les arbres se ressemblent. Le terrain ne change pas beaucoup, sauf à travers Erie, en Pennsylvanie, où les routes deviennent mauvaises, mais sinon, c'est à peu près la même chose. Une nuit, j'étais un peu trop fatigué et j'ai vu un lapin ou un petit animal sauter sur la route. J'ai réagi, comme il ne faut jamais le faire lorsqu'un animal saute sur la route. J'ai réagi et j'ai tiré le volant. Et c'était glissant. C'était l'hiver. Et au lieu que la voiture fasse ce qu'elle aurait dû faire lorsque vous faites quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, la voiture s'est remise dans la voie, et j'ai continué à rouler. Je n'oublierai jamais la main de Dieu dans ma vie à ce moment-là. Vous aurez ces histoires dont vous vous souviendrez pour le reste de votre vie. C'est énorme, ce sont des expériences passées, mais en même temps, encore une fois, les petites choses comptent aussi, les choses plus récentes. Romains 8, et continuez ici au verset 27, celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Verset 28, et nous savons que toutes choses concourent au bien. C'est ce que Dieu fait dans nos vies, pour ceux qui aiment Dieu et pour ceux qui sont appelés selon son dessein, pas pour tout le monde dans le monde, mais pour vous et moi qui avons été appelés à son mode de vie, qui le vivons et qui aimons Dieu, ce qui signifie garder les commandements, lui obéir. Lorsque nous faisons cela, tout tend à s'arranger, n'est-ce pas? Nous pouvons être testés. Nous pouvons être éprouvés. Nous pouvons traverser des épreuves, des expériences et des difficultés, oui, mais Dieu finit par les résoudre en s'en occupant. Et lorsque nous repensons à ces choses qu'il a faites, à une leçon difficile que nous avons dû apprendre et qui nous a aidés à mieux nous voir, peut-être même à une porte fermée qui a conduit à une opportunité différente. Combien de fois, je l'ai entendu si souvent de la part de frères, que les gens pensaient qu'ils voulaient suivre un certain chemin, et que c'est ainsi que Dieu allait les répondre. Nous commettons parfois cette erreur, n'est-ce pas? Nous le faisons tous. Nous prions pour un chemin ou pour une solution spécifique. Oh, Dieu, peux-tu me donner ce travail parce que je veux ce travail, c'est le travail que je veux, alors que la meilleure approche serait probablement, Dieu, dois-je avoir ce travail? Est-ce que c'est le travail que tu veux que j'aie? Mais quoi qu'il en soit, souvenez-vous que l'Esprit donne l'intercession. Nous pourrions prier en disant, je veux ce travail, et l'Esprit de Dieu, travaillant à travers nous, pourrait dire, Dieu nous connaît mieux que cela. Il sait que nous sommes sincères, mais il fermera la porte. Et à ce moment-là, vous, moi, chacun d'entre nous penserait, oh là là, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Dieu est-il impliqué dans ma vie? Pourquoi ne répondrait-il pas à ma prière? Ensuite, l'activité de la vie nous fait parfois oublier qu'une autre porte s'ouvre, que nous obtenons un meilleur emploi ou que nous découvrons que cet emploi exigeait de travailler le jour du sabbat. La porte était fermée et nous avons obtenu un emploi mieux rémunéré parce qu'une autre porte s'est ouverte. Dans ces moments-là, ne vous contentez pas de réfléchir au fait que Dieu est intervenu dans votre vie à l'occasion de la bénédiction. C'est très bien. C'est facile à voir pour vous, et dites, j'ai eu le travail. Regardez en arrière. Souvenez-vous des expériences passées. Voyez quand la porte s'est refermée sur l'implication de Dieu dans votre vie. Il n'y a pas que les bénédictions. Il y a aussi parfois les malédictions, si vous voulez, ou les portes fermées où Dieu a dit, non, tu n'as pas tout à fait trouvé l'endroit où tu voulais aller. J'apprécie que tu y aies pensé et que tu aies prié à ce sujet, mais laisse-moi te montrer, comme j'aime à le dire, que tu n'es qu'un pion sur l'échiquier. Frères et sœurs, lorsque nous acceptons cela, que nous ne sommes que des pions et que Dieu nous place là où il le veut, nous sommes dans une position de force, parce que les pions sont simplement déplacés. Lorsque nous commençons à penser que nous sommes des tours, des cavaliers, des rois ou des reines ou n'importe quelle autre pièce de niveau supérieur, c'est là que les choses peuvent devenir un peu difficiles parce que nous commençons à nous déplacer nous-mêmes. Nous nous disons, oh, je suis un chevalier. Je peux faire de beaux mouvements. Non, nous ne sommes qu'un pion. Une pièce, un pas à la fois, un pas à la fois. Si nous regardons en arrière et que nous voyons ces protections que nous n'avions pas réalisées, ces choses qui se sont produites et qui nous obligent à y réfléchir, cela nous aide aussi à construire quelque chose d'autre. Cela nous aide à avoir une perspective qui nous permet de toujours trouver le bon côté des choses. C'est souvent ainsi que Dieu fait avancer les choses. Il peut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Il peut nous faire subir un revers pour nous permettre d'aller de l'avant. Nous pouvons être corrigés pour nous améliorer. Et à la fin, lors de la correction, du revers, de l'épreuve, nous pouvons penser, oh, oh là là. Dieu ne travaille pas avec nous. Et puis le positif se produit, et nous devenons meilleurs à faire quelque chose, à trouver le bon côté des choses. Car cela peut s'appliquer à tous les aspects de notre vie. Être capable de voir le positif, d'être optimiste, de voir le verre plein, de trouver le bon côté des choses, parce que nous voyons Dieu travailler avec nous. Nous savons que les choses vont s'arranger. Souvenez-vous que toutes les choses concourent au bien. Les empreintes de Dieu se manifestent parfois de manière inattendue. Alors comment trouver les empreintes digitales de Dieu et quand il fait quelque chose? Parce que, mes frères, le temps de Dieu est parfait. Même si nous ne sommes pas d'accord, même si la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les siennes, le timing de Dieu est parfait. Je vais encore me servir de moi-même comme exemple. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, ma mère et mon beau-père étaient dans l'église. Ils sont retournés dans le monde entier, tous les deux. Et je n'étais en aucun cas intéressé par la religion. Rien de tout cela. J'avais l'habitude de débattre avec des créationnistes. Ma tête était donc dans un espace très différent. Si Dieu avait essayé de m'appeler au début de ma vingtaine, je suis presque certain que je n'aurais pas répondu. Ma vie se déroulait bien, mon travail était excellent. Je profitais des plaisirs de la vie dans une grande ville. Pourquoi me serais-je tourné vers Dieu? Tout comme Israël, c'est la même chose, les êtres humains n'étaient généralement pas réceptifs quand les choses allaient bien, mais à un moment donné, les choses ont changé. Les choses n'allaient pas mal pour moi, mais je commençais à m'ennuyer, ce n'est pas le bon terme. Mais j'avais fait des choses, et je me demandais, d'accord, quelle est la prochaine étape de ma carrière? J'ai vendu une entreprise. Et j'étais plus réfléchi à cause de la situation. C'est à ce moment-là que Dieu m'a dit, c'est le moment d'ouvrir mon cerveau et de l'ouvrir pour qu'il reçoive un peu. Son timing était parfait. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. C'était juste sur le moment. Mais aujourd'hui, je regarde en arrière et je me dis, Dieu était à l'œuvre dans ma vie. Et puis je peux regarder ces moments et voir avec le temps, en remontant de plus en plus loin, vous voyez des expériences que vous avez eues où Dieu est intervenu avant même que vous ne soyez appelé, sachant que son timing était parfait à ces moments-là, pour faire évoluer votre vie dans la direction où il voulait vous amener, pour que vous soyez appelé. Et si vous avez été élevé dans l'Église, c'est la même chose. Ce n'est peut-être pas aussi spectaculairement évident lorsque vous êtes appelé, mais vous aurez ces expériences passées où le timing de Dieu était parfait pour changer votre direction ou vous pousser d'une certaine manière parce qu'il guide notre chemin. Allez au chapitre 3 de l'Ecclésiaste. Troisième chapitre de l'Ecclésiaste, connaître les empreintes digitales de Dieu dans son timing, c'est être capable de voir Dieu travailler avec vous. Ecclésiaste, chapitre 3 et verset 1. Le premier dit, il y a un temps pour tout, un temps pour tout, et un temps pour toute chose sous le ciel. Ce passage est inspirant, mais je n'arrive pas à avoir la chanson des Beatles en tête lorsque je lis ce passage, mais je ne la chanterai pas, même si je la chante dans ma tête. Chapitre 2, Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour rebâtir. Il y a un temps, une saison, un but, un timing pour toutes ces choses. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Lui, Dieu, a fait tout ce qui est beau en son temps. Dieu contrôle le temps. Il est un être hors du temps. Le temps est aussi facile à voir pour Dieu qu'une règle, un interrupteur ou une chaise pour nous. L'étendue du temps, Dieu peut la voir comme nous voyons une chaise. Donc il perfectionne le temps. Il est parfait dans son timing. Poursuivant au verset 11, il a aussi mis le monde dans leur cœur donc, afin que personne ne puisse découvrir l'œuvre que Dieu accomplit depuis le commencement jusqu'à la fin. Aucun homme ne peut comprendre la main de Dieu dans les affaires, jusqu'à ce qu'il nous appelle, ou jusqu'à ce que nous suivions ce mode de vie, ou jusqu'à ce que nos parents soient appelés. Soudain, la porte s'ouvre. Mais demandez à n'importe qui de vous parler de choses spécifiques qui se sont produites dans leur vie, de bonnes choses, et dites, saviez-vous que Dieu nous bénit dans ces aspects ? La plupart des gens disent que c'est une coïncidence, mais je peux regarder en arrière, et je suis sûr que vous pouvez tous le faire, avant d'être appelés, et je sais avec certitude que Dieu nous a poussés dans certaines directions, nous a protégés dans le but il a pour vous d'être assis dans la chaise où vous êtes assis aujourd'hui. Dans son plan, tout se déroule au bon moment. Il se peut que nous ne le comprenions pas sur le moment. Nous pouvons penser, pourquoi as-tu fermé la porte ? Est-ce que tu travailles avec moi, Dieu ? Comme je l'ai déjà dit. Mais avec le temps, nous voyons cette porte s'ouvrir. Nous voyons quelque chose changer. Nous voyons la main de Dieu. Et ensuite, nous devons regarder en arrière. Frères et sœurs, nous devons regarder en arrière. Une grande partie du message d'aujourd'hui consiste à s'arrêter, à méditer, à regarder en arrière, à s'analyser. Nous entrons à nouveau dans les jours saints du printemps. Nous nous examinons, mais pas seulement pour nos défauts de caractère. Ne prenez pas la Pâque ou ne regardez pas la saison de l'an en vous disant, c'est le moment où je regarde mes défauts. Oui, vous vous examinez. Et on voit les domaines dans lesquels on doit s'améliorer. Oui, à 100%. Mais en même temps, trouvez les choses qui vont bien dans votre Pâque marche chrétienne. Trouvez les choses où vous voyez la main de Dieu dans votre vie. Nos vies portent ses empreintes. Et frères, cela vous inspirera à travailler sur les choses qui étaient plus faibles, à avoir la confiance que Dieu peut nous construire dans les domaines où nous sommes déficients. Nous devons construire la foi, et nous devons comprendre que le temps de Dieu est parfait. Nous simplement devons être patients pour qu'il nous ouvre la porte, qu'il résolve le problème, qu'il nous donne le moyen de nous en sortir. Comment trouver les empreintes digitales de Dieu et la façon dont nous marchons? C'est un peu comme le timing. Parce que Dieu ne se contente pas d'ouvrir des portes, il nous dirige parfois vers ces portes, n'est-ce pas? Nous ne nous en rendons même pas compte. Nous reculons devant une solution, puis nous devons revenir plus tard, regarder Dieu et dire, « Dieu, c'était toi ? Je n'avais même pas l'intention de faire ce geste ou cette idée, mais cette pensée m'est venue à l'esprit, où les circonstances s'arrangent d'elles-mêmes. » Allez à Proverbe 3. Vous êtes probablement dans l'Ecclésiaste. Proverbe 3. Proverbe, chapitre 3. Nous commencerons au verset 5. Verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton être, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Faire confiance à Dieu de tout notre cœur. Ne nous fions pas à notre compréhension humaine. Cela ne signifie pas que nous ne prenons pas nos propres décisions. Non, nous ne nous fions pas à notre compréhension. Comme pour la compréhension spirituelle, nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur. Et si nous le faisons, et que nous le reconnaissons, en réfléchissant à la manière dont il a fait ce qu'il a fait dans nos vies, à petite ou grande échelle, au moment opportun, dans toutes les choses que nous avons examinées jusqu'à présent, nous le reconnaissons parce que si nous nous attribuons le mérite, c'est le danger, mes frères. Si vous, moi ou n'importe lequel d'entre nous s'attribue le mérite des décisions, des circonstances, des portes ouvertes ou de tout ce que Dieu a fait dans nos vies, nous ne le reconnaissons pas, n'est-ce pas? Et parfois, c'est involontaire, mais nous devons prendre du recul et nous demander, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je veux que les proverbes 3 et 6 s'appliquent. Je veux m'assurer que je le reconnais dans toutes les choses qu'il a faites pour moi, de toutes les manières, parce que si nous le faisons, alors la deuxième moitié s'applique, c'est-à-dire qu'il dirige nos pas. Jérémie 10. Jérémie, chapitre 10. Ce sont des versets très familiers, mais parfois la simplicité est la meilleure donc façon d'aller à l'adresse. Jérémie 10, chapitre 10, et verset 23. 10, 23. Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui-même. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses propres pas. Jérémie l'a reconnu. Nous devrions en faire autant. Lorsque nous vivons le christianisme, nous avons pris une décision. Lorsque nous nous sommes engagés lors du baptême, lorsque nous avons décidé d'être baptisés et de vivre ce mode de vie, lorsque nous regardons vers l'avenir, à quelques semaines de la Pâque, et que nous prenons le sang et le corps du Christ, ces symboles, nous avons dit, je ne dirige pas mes propres pas. Et si nous voulons que Dieu dirige nos pas, les proverbes 3 et 6 s'appliquent. Nous devons le reconnaître et reconnaître toutes les choses qu'il a faites pour nous. Et en le reconnaissant, nous voyons ses empreintes, sa main dans notre vie. Et frères, si vous prenez la foi, parce que c'est ce qu'elle construit. Nous avons la foi lorsque nous voyons la main de Dieu dans notre vie, et que le temps ou l'expérience passe, vous savez ce que cela produit. La foi plus l'expérience, cela construit la confiance parce que nous voyons la main de Dieu sur une période de temps et de la bonne manière. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Nous nous y attendons. Nous nous y attendons parce que nous le reconnaissons. Il va guider nos pas. Toutes choses concourent bien parce que nous l'aimons, que nous lui obéissons et que nous faisons tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Vous et moi devons nous attendre à ce que Dieu guide nos pas. Nous ne sommes pas arrogants, mais nous croyons aux promesses. Tout comme lorsque quelqu'un est oint comme ancien, et j'ai déjà oint des gens auparavant, je remercie Dieu à l'avance pour la guérison de cette personne parce qu'il y a des rayures de Jésus-Christ. Cette personne, si elle a fait tout ce qu'elle devait faire, Dieu la guérira. C'est la promesse. Je leur dis donc de s'attendre à être guéri ou de s'attendre à ce que Dieu leur enseigne ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour pouvoir surmonter leurs problèmes physiques ou autres. Attendez-vous à une réponse parce que nous faisons ce que nous faisons pour lui plaire. Nous n'essayons pas de diriger nos propres pas. Retournez au psaume 37. Psaume chapitre 37, ou le 37e psaume. Psaume 37, verset 23. Le verset 23 du psaume 37 dit, « Les pas de l'homme de bien sont réglés par l'Éternel, et il se complaît dans sa voie. » Bien sûr, parce que Dieu guide ses pas, parce que les pas de l'homme de bien sont réglés par l'Éternel. Dieu dirige notre chemin. Encore une fois, c'est ce que nous recherchons. Nous voulons pouvoir voir les empreintes de Dieu, Sa main, ses conseils, son implication dans le chemin que vous et moi suivons. Cela ne vaut que si nous vivons ce mode de vie. Il y a une différence entre connaître le chemin et vivre le chemin. Nous pouvons connaître le christianisme. Nous pouvons être dans l'Église de Dieu et comprendre les doctrines de base. Nous pouvons être convertis et connaître le chemin à suivre, mais c'est très différent de la pratique. Se préparer, étudier, prier, jeûner, méditer, exercer l'Esprit de Dieu, être en communion, faire tous les aspects que nous ne pourrions même pas aborder pour effleurer la surface dans un message aujourd'hui, parce que ce sont les choses qui montrent que vous aimez Dieu, parce que c'est un amour sortant et une préoccupation pour les autres. Ce sont ces choses qui permettent aux choses de concourir au bien, qui permettent à Dieu de diriger nos pas, qui nous permettent de voir sa main et ses empreintes dans nos vies. Il y a aussi un autre aspect à cela. Rappelez-vous, et c'est pourquoi vous devez être prudent, ouvert et réceptif, que si Dieu ouvre une porte, vous devez la franchir. Il peut la fermer. Aucun homme ne peut fermer la porte si Dieu l'ouvre pour vous. Personne ne peut fermer une porte que Dieu ouvre. Reprenons une version familière, le chapitre 3 de l'Apocalypse. Mais c'est à nous de la franchir. Si Dieu nous donne une opportunité, il peut la limiter dans le temps. Nous devons faire un pas dans la foi, et il peut fermer la porte, mais aucun être humain ne peut le faire. Cela semble un peu négatif, donc et cela peut mordre. Si Dieu nous donne une porte ouverte, que nous ne la franchissons pas et qu'elle se referme, cela devrait aussi nous dire qu'il travaille dans nos vies par ce qu'il dit. Je veux que tu apprennes une leçon. Je t'ai donné une opportunité. Tu n'en as pas profité. Je me souviens qu'il y a des années, votre. Lisons d'abord le chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 7, et je reviendrai ensuite pour parler des opportunités. Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne peut fermer, et qui ferme, personne ne peut ouvrir. Je connais vos œuvres. Voici que je mets devant vous une porte ouverte. Il s'agit ici de l'Église, mais en fin de compte, cela s'applique à tous. Et personne ne peut la fermer. Car tu as un peu de force, un peu de dynamie, un peu d'esprit, ou un peu de force miraculeuse, et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Passons à Ésaïe 22. Nous verrons la version de l'Ancien Testament. Ésaïe 22. Puis nous parlerons des opportunités. Verset 22. Un seul verset du chapitre 22. 22. 22. La clé de je mettrai sur son épaule maison de David. Là il ouvrira, et personne ne fermera. Il fermera, et personne n'ouvrira. Si Dieu ouvre ou ferme une porte, cette porte reste ouverte. Si Dieu la ferme, elle se referme. Frères et sœurs, la façon la plus simple de voir cela est de savoir si le ministre vous a demandé de faire quelque chose, quelles que soient les circonstances. Il peut s'agir d'une collecte de fonds ou d'une participation à une activité sociale, quel que soit l'aspect, pour aider les frères, la veuve. Si l'on vous demande de faire quelque chose, voyez Dieu derrière cette opportunité. Il se peut que vous ayez peur, que vous soyez nerveux, que vous vous disiez, je ne suis pas vraiment à l'aise pour faire cela. On vous a demandé de diriger une, de faire chanson une prière d'ouverture ou de clôture, ou de diriger une équipe pour la mise en place. Quel que soit le cas. Ou simplement de faire partie de l'équipe d'installation. Si tu vois une opportunité ouverte, si on te donne une opportunité, saisis-la. Dieu a ouvert la porte. Traversez-la. Ayez confiance que le gouvernement de Dieu, Dieu à travers ceux qui vous entourent, tous ceux qui veulent vous aider à voir, à grandir et à vous développer vous ont donné cette opportunité et saisissez-la. Je ne serais pas ici aujourd'hui si je ne disais pas oui aux opportunités, car on m'a dit très tôt dans ma marche chrétienne que si l'on dit non, d'une part, cette opportunité ne se représentera peut-être jamais, ou d'autre part, si Dieu est miséricordieux, elle ne se représentera peut-être pas avant un certain temps. Je me souviens de la première fois où l'on m'a demandé de diriger un chant. Je ne voulais pas le faire. Cela semblait être une partie très compliquée des services, et si vous avez commencé à diriger les chants, et je me souviens combien j'étais nerveux la première fois, comme tout le monde, quand vous vous mettez derrière le pupitre, le podium ici, sur le podium et derrière le pupitre, vous êtes nerveux. Et nous devrions tous l'être à un certain niveau car, en tant que ministre, nous parlons au nom de Dieu, nous apportons sa sagesse. Il s'agissait de diriger une chanson. Et on m'a dit, profite de cette opportunité parce que Dieu a ouvert une porte pour toi. Et j'ai dit, d'accord, je vais diriger le chant. Je ne sais pas ce que je fais. Je vais tout gâcher, mais je vais faire de mon mieux. Je me souviens que j'avais une anti-sèche qui contenait tous les éléments de ce que je voulais dire depuis le moment où je m'approchais du pupitre jusqu'au moment où je m'en éloignais, et il y avait deux pages avec des notes de bonjour, de BR. J'avais tout ce qu'il fallait, mais je voulais profiter de l'occasion parce que je me souviens de ces mots. Monsieur Parkles, il y a des années et des années devant un groupe d'employés, nous étions de l'autre côté de la ville. Si une occasion a prononcé de servir, saisissez-la car Dieu peut fermer la porte. Rappelez-vous que si une occasion se présente, c'est lui qui l'a ouverte. Personne ne peut la fermer. Aucun homme ne peut la fermer. Mais si cette opportunité se ferme, c'est parce qu'il l'a fait. Et cela devrait piquer un peu. Et si cela vous arrive ou vous est déjà arrivé, réfléchissez-y. Peut-être était-ce récemment, et votre ministre vous a demandé de faire quelque chose de plus, et vous avez dit, je ne pense pas. Je ne suis pas à l'aise pour le faire. Je ne suis pas à l'aise pour le faire. Eh bien, arrêtez, voyez la main de Dieu, ce prochain sabbat, allez voir votre ministre et dites, vous savez quoi? J'ai réfléchi à ce que vous avez dit. Je ne pense pas que j'ai eu raison de dire non. C'était une opportunité. Puis-je encore servir de cette manière? Et il peut dire, eh bien, plus maintenant parce que quelqu'un d'autre le fait, mais je vous remercie d'être venu me voir. Il y a d'autres façons de servir. Et puis prenez-le, saisissez-le parce que, rappelez-vous, si Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et vous voyez des exemples dans toute la Bible où cela s'est produit à maintes reprises. Nous pouvons en regarder un. Allons au chapitre 41 de la Genèse. Peut-être en regarder deux. Nous verrons. Genèse, chapitre 41. Nous allons résumer ce récit, même si nous y sommes, pour gagner du temps. Genèse, chapitre 41. Et à partir du verset 14, nous allons passer directement au verset suivant. Pharaon envoya appeler Joseph. Vous connaissez le récit de Joseph devant Pharaon, on le fit monter en toute hâteur du cachot. Il se rasa, changea de vêtements et vint vers Pharaon. Nous pourrions faire le long récit de tout ce que Joseph a fait, de tout ce qu'il a fait pour améliorer la nation et apporter des idées. Puis Pharaon l'a élevé, élevé et élevé Pharaon établi chef de tout le pays d'Égypte, mais descendons au verset 41. Dit à Joseph, voici, je t'ai. Pharaon dit à Joseph, voici, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. Pensez-vous que Joseph est devenu esclave par hasard au moment où il l'a été? Pensez-vous vraiment que Dieu n'était pas en charge lorsqu'il a été jeté dans ce trou, ou que Dieu n'était pas en charge lorsqu'il a été mis en prison? Non. Tout au long du récit, si vous le lisez, c'est une excellente étude et quelque chose à lire à votre rythme. Vous voyez que Joseph a vu la main de Dieu le guider et le diriger, et qu'il se soumettait à la volonté de Dieu. Il ne s'est pas poussé là où il ne devait pas être avant que cela ne se produise. Tout comme vous et moi devons être à l'aise, heureux et satisfaits de l'endroit où nous sommes dans le corps du Christ pour pouvoir être utilisés d'une manière plus importante. Nous devons être heureux et satisfaits d'être célibataires avant que Dieu puisse nous donner un conjoint dans le mariage. Nous ne pouvons pas devancer l'endroit où Dieu nous place. Il ouvrira la porte au bon moment. Ensuite, vous et moi devons dire, « D'accord, Dieu a ouvert la porte, je vais la franchir. Dieu m'a donné une opportunité, je vais la saisir. » Cela ne veut pas dire que nous vivons une chrétienté passive. Si vous êtes célibataire, vous ne vous asseyez pas en pensant, « Oui, c'est parti. Je suis très à l'aise en tant que célibataire. Je vais juste mettre mes pieds en l'air, Dieu va faire tomber une femme dans ma vie. » Non, ce n'est pas comme cela que cela marche. Il faut travailler au christianisme, mais il ne faut pas s'emballer. Nous ne forçons pas quelque chose si ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait ou permis ou une porte qu'il a ouverte. D'accord, en voici une autre. Comment pouvons-nous voir la main de Dieu dans la façon dont il nous utilise pour aider les autres? D'accord, je le répète. Comment pouvons-nous voir la main de Dieu ou ses empreintes digitales dans la façon dont il nous utilise pour aider les autres? Vous pouvez consulter le deuxième épître aux Corinthiens, premier chapitre de la deuxième Corinthiens, premier chapitre. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de nous. Nous ne cherchons pas seulement des empreintes digitales dans nos vies. Nous devrions regarder comment notre vie affecte les autres. Et ce n'est pas le cas, mes frères. Lorsque nous limitons notre rôle de lumière pour le peuple de Dieu, nous limitons l'usage que Dieu fait de nous. Vous et moi sommes une lumière 24 heures sur 24, ou nous devrions l'être. Et nous sommes une lumière bien plus brillante pour ceux qui ne sont pas convertis que pour ceux qui le sont, parce qu'ils sont aussi des lumières. Ainsi, dans une pièce éclairée, vous ne vous distinguez pas autant, mais si vous entrez dans une pièce sombre, oh, c'est. Dans notre maison, nous avons une lumière au-dessus de notre baignoire, dont l'intensité est très, très, très faible. Ainsi, si vous vous réveillez au milieu de la nuit pour aller boire un verre d'eau ou autre, il vous suffit d'allumer, qui est très faible, et vous n'êtes pas aveuglé lorsque vous essayez d'aller aux toilettes ou autre chose. Mais c'est lumineux au milieu de la nuit, même si c'est le plus bas possible, parce que même cette faible lumière, quand il fait sombre autour, est lumineuse. Il m'est arrivé d'appuyer sur le mauvais interrupteur, qui allume la lumière principale de la salle de bain, et d'être étourdi. On ne voit rien. Alors, frères, nous voulons être aussi brillants. Nous voulons être aussi brillants que nous laissons les gens hébétés, non pas parce qu'ils sont négatifs, mais parce qu'ils se disent « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme cela ». Plus nous grandissons, plus nous nous développons, plus nous nous abandonnons à la volonté de Dieu, plus nous le reconnaissons dans tout ce que nous faisons, plus nous voyons ses empreintes, plus il se servira de nous. C'est pourquoi nous saisissons les opportunités qui se présentent à nous, car Dieu nous utilise d'une manière plus importante. Vous pouvez être utilisé de plus façons et d'une manière plus large que vous ne l'avez jamais imaginé. Comment puis-je le savoir? Je ne connais pas votre situation personnelle, ni l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Comment le sais-je? Parce qu'il t'a choisi pour être Dieu. C'est aussi simple que cela. Il vous a choisi pour devenir un être divin. Il voit en vous quelque chose que vous ne voyez peut-être pas en vous-même. Tu peux faire beaucoup plus donc que ce que tu crois. Tu peux être utilisé de bien plus de façons que tu ne le penses. N'oubliez pas l'objectif final. Tout ce que nous faisons tend vers cet objectif. Alors, quand une occasion se présente, quand nous avons la chance de travailler avec des gens, souvenez-vous-en. Dieu se sert de vous. Vous êtes probablement déjà dans la deuxième partie des Corinthiens, au troisième verset du premier chapitre. Verset 3 du chapitre 1 de l'Épître aux Corinthiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Verset 4, « Celui qui nous console dans nos tribulations, afin que nous puissions les consoler. » Ainsi, les choses qui nous arrivent, à vous et à moi, sont faites pour que nous puissions, et de manière à aider ce que nous puissions aider d'autres personnes qui pourraient souffrir de choses similaires. Nous console dans nos propres tribulations, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'embarras, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Dieu vous donne des opportunités et des expériences, des tribulations, afin que vous puissiez aider et servir d'autres personnes lorsqu'elles passent par là. C'est pourquoi la diversité de l'Église de Dieu est étonnante parce que nous allons tous souffrir de choses différentes dans notre vie, selon l'endroit où nous vivons, nos origines, nos expériences, la partie du monde où nous vivons, notre maturité spirituelle. Tout cela entre en jeu dans la diversité de l'Église de Dieu parce que nous aurons tous des expériences différentes, nous aurons des tribulations différentes. Et, à un moment donné, ces expériences, ces tribulations, ces épreuves, ces les triomphes aussi peuvent être utilisés dans la manière dont nous aidons les autres. Combien de fois avez-vous utilisé une histoire si vous avez été sur le chemin de Dieu pendant un certain temps? Vous êtes parent, ou vous êtes un aîné, ou peu importe, vous parlez à quelqu'un le jour du sabbat, et quelqu'un évoque l'histoire d'une épreuve ou d'une difficulté. Et de la bonne manière, en essayant de réconforter et d'aider, pas pour se vanter, ou, mais de la bonne manière, vous dites, « Oh, j'ai traversé quelque chose de similaire, pas exactement la même chose, mais j'ai traversé quelque chose de similaire, et c'est ce qui m'a aidé. » Et cette personne non seulement est réconfortée ou renforcée, mais vous construisez également un lien plus étroit parce que vous montrez que vous vous souciez d'elle. C'est pourquoi l'attitude est si importante dans tout ce que nous faisons. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas au niveau des services? Et si l'employé de l'épicerie vous dit à quel point sa journée a été difficile à cause du client qui a fait n'importe quoi sur lequel il tombe? Et si vous travailliez dans le la cliente le sans cesse service et que vous disiez, « Oh, je me souviens de l'époque où je faisais du service à la clientèle. » Je vais vous raconter une histoire, cela peut, cela dépend de la situation. Aïe. Il y a des gens, et je l'ai déjà dit, qui travaillent chez Giant Eagle et que je vois tout le temps, qui passent devant vous en souriant et en hochant la tête, et d'autres qui vous parlent. Au début, je me suis dit, je suis pressé. La seule fois où je vais chez Giant Eagle, c'est un vendredi soir. C'est donc un peu, c'est vendredi, le soleil se couche. Je veux entrer et sortir, et je vais peut-être acheter quelque chose pour ma femme ou quelque chose à boire, peu importe. Et je me dis, il faut que j'entre et que je sorte. Pourquoi cette personne me parle-t-elle? Mais à un moment donné, il y a de nombreuses années, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne parle pas à cette personne? Pourquoi suis-je si pressé? Je comprends le sabbat. Je suis sur le point d'entrer dans un jour de repos. Pourquoi suis-je pressé? Puis j'ai changé d'approche et j'ai dit, non, vous savez, je vais converser avec eux. Maintenant, je vais à l'épicerie, et si on me dit, oh, comment va-t-a? Tu as eu une bonne semaine, oh, comment s'est passée la tienne? Oh, on a dû. Oh, oui, c'était des clients, je vous le dis. Et puis il y a quelques semaines, ou environ un mois et demi, ils ont eu un problème avec une caisse enregistreuse. Et moi, en tant qu'informaticien, j'ai commencé à suggérer des solutions pour la dépanner. Nous avons fini par le réinitialiser, et la caisse enregistreuse était de nouveau opérationnelle, et c'est parce que j'ai eu l'occasion d'aider les autres. Est-ce que ma lumière brille plus parce que je l'ai fait là ou parce que je l'ai fait avec des frères? Dieu dit que cela n'a pas d'importance. Vous devez le faire avec les deux. Vous devez être l'exemple. Si vous voyez une situation qui nécessite de l'aide, et parfois, surtout dans le monde, ce sont les choses les plus simples pour montrer de l'attention et de la compassion. Vous aidez quelqu'un avec une épicerie. Je ne sors pas beaucoup, évidemment, parce que toutes mes histoires d'aide aux gens se passent chez Giant Eagle. Alors prenez un caddie, ou n'importe quoi d'autre, mes frères, qui vous donne l'occasion d'aider les gens. Vous et moi devrions être des lumières. Et quand nous le faisons, nous devons revenir en arrière et reconnaître Dieu, voir qu'il nous a donné l'occasion, et voir sa main dans nos vies. Et ensuite, reconnaissez ce que vous avez fait. Peut-être quelque chose qui permette à cette personne d'être appelée maintenant ou d'être plus réceptive dans le royaume, ou bien elle se souviendra simplement de vous. Il y a une ou deux personnes à Giant Eagle dont je suis presque sûr qu'elles se souviendront de moi dans le royaume de Dieu parce que j'ai fait un effort encore et encore. Cela ne fait pas de moi une star, cela signifie simplement que j'ai essayé, alors nous devrions tous le faire parce que cela peut faire une différence. Cela peut aider quelqu'un à recevoir plus facilement la vérité de Dieu, maintenant ou plus tard. Nous devons voir les empreintes de Dieu dans les épreuves que nous traversons, dans les opportunités qu'il nous offre, dans la manière dont nous pouvons aider et servir les autres. Voir ses mains, voir ses conseils, voir ses empreintes digitales. Nous devons également voir sa main dans les relations. Allez à Proverbe 27. Proverbe 27, c'est particulièrement vrai pour le peuple de Dieu, plus que pour le monde. Parfois, ils nous mettent davantage à l'épreuve parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu ou qu'ils n'essaient pas de vivre, mais ceci est particulièrement applicable. Proverbe 27, juste un verset ici au verset 17. Vous le connaissez bien. Proverbe 27, 17, le fer aiguise le fer. Ainsi l'homme aiguise le visage de son ami. Frères et sœurs, lorsque nous sommes assis l'un en face de l'autre, lorsque nous parlons, lorsque nous sommes en communion, lorsque nous sommes en désaccord, lorsque nous nous donnons des conseils, lorsque nous pensons à travailler ensemble, nous nous construisons les uns les autres. Nous sommes des êtres humains. Nous ne voyons pas nécessairement les choses de la même manière dans toutes les situations ou nous ne sommes pas d'accord avec une approche dans toutes les situations. Parfois, cela peut créer des conflits, mais parfois, c'est le fer contre le fer, parce que nous y travaillons et nous la planissons, et nous en sortons tous grandis. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un dans votre vie, surtout dans la voie de Dieu, qui vous a aidé spirituellement? Vous voyez simplement leur exemple. C'est le fer qui aiguise le fer. C'est un être humain qui a été forgé dans ce mode de vie, le fer. Leur exemple pourrait vous faire penser, je veux ressembler davantage à la façon dont ils vivent leur vie, à la façon dont ils sont forgés, à ce qu'ils ont traversé, à leur exemple. Et vous pouvez être l'exemple de quelqu'un d'autre, sans même le savoir. Vous pourriez être le fer qui aiguise le fer. Il pourrait être le fer qui vous aiguise. Lorsque ces opportunités se présentent, Souvenez-vous que c'est Dieu qui les guide. Sa main ouvre ses opportunités. Il construit ses amitiés. Lorsque vous rencontrez quelqu'un à la fête, ne faites pas, ne laissez pas cela être un accident. Par exemple, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entends bien et qui m'a fortifié et fortifié, et j'ai construit une amitié, et je suis plus proche d'eux. Ne considérez pas cela comme un accident. Il ne s'agit pas d'un moment ou d'un hasard. Tout ce qui est bon et parfait vient d'en haut. Ainsi, si vous développez une bonne amitié avec quelqu'un, voyez-les venir de Dieu. Voyez que cela vient de lui qui travaille dans vos vies. Reconnaissez-le, souvenez-vous, et ensuite il guidera nos pas. Il place des gens dans notre vie pour une certaine raison. C'est particulièrement vrai si vous êtes célibataire et que vous cherchez un conjoint. Vous voulez la personne que Dieu veut que vous ayez parce qu'elle vous complétera et fera de vous une meilleure personne. Si nous la forçons, nous disons, je me fiche de ce que Dieu veut dans ma vie. Je veux juste le résultat, pas le bon résultat, parce que vous pouvez obtenir un résultat, vous pouvez vous marier. Les gens peuvent aller jusqu'à quitter l'église et se marier. C'est un résultat. C'est le mauvais résultat, et cela vous retire du corps du Christ, mais c'est un résultat. Mais si vous voulez obtenir le bon résultat, voir la main de Dieu, nous devons, encore une fois, le reconnaître. La rechercher et travailler aussi dur que possible pour permettre à Dieu de nous manœuvrer et de nous façonner, de nous guider et de nous aiguillonner. D'accord. En voici une autre. Dieu nous protège lorsque nous cherchons des empreintes digitales, et c'est quelque chose que nous devrions rechercher d'une manière dont nous ne nous rendons peut-être pas compte au premier abord. Dieu nous protège d'une manière dont nous ne nous rendons peut-être pas compte au premier abord. Combien de fois, et vous ne vous en rendrez jamais compte, avez-vous conduit sur une route et un conducteur ivre venait vers vous, et il faisait des embardées sur la route, et vous ne l'avez pas vu, et vous conduisiez simplement, et à un donc certain moment Dieu a forcé leur véhicule, et il vous a dépassé, et vous n'avez rien pensé, et puis la personne a fait des embardées et a heurté un arbre ou quoi que ce soit, après qu'elle vous ait dépassé. Ce sont les moments où Dieu nous protège, nous guide et dirige la situation autour de nous, et nous ne le savons même pas. Il ne s'agit pas d'une première réalisation. Il y a des moments où nous ne nous rendons même pas compte qu'il le fait, et nous donc devons supposer que c'est ce qui se passe. Nous devons reconnaître qu'il le fait parfois, même si nous ne savons pas de quoi il s'agit. Mais il y a d'autres moments où nous pouvons nous remémorer une situation qui était précaire, qui n'aurait pas dû être sûre. Et cela peut s'être produit après que vous avez été appelé. C'était peut-être avant qu'on ne vous appelle. Je me souviens des moments de ma vie où j'ai. Je me souviens avoir pensé, quand j'étais plus jeune, que je disais cela à ma mère et qu'elle gloussait dans sa manche. Je lui disais, « Maman, je ne sais pas ce que c'est. J'ai juste beaucoup de chance. » Elle souriait et riait en pensant au fait qu'elle vivait selon le mode de vie de Dieu, et que Dieu était donc impliqué dans ma vie. Et elle n'a jamais pensé que je serais appelé. Mais elle savait qu'en étant, en obéissant à Dieu, cela me donnait l'occasion d'être béni. J'avais l'habitude de penser, « Oh, j'ai tellement de chance. » Aujourd'hui, je regarde en arrière et je me dis, « Dieu, tu m'as protégé de moi-même tant de fois. » Il y a tellement de choses stupides que j'ai faites que je regarde en arrière. Et ce n'était pas de la chance. C'est toi qui m'as empêché d'aller trop loin. Alors je regarde en arrière et je me dis, « Oh, d'accord, je vois Dieu dans ma vie. » Et après avoir été baptisé, après avoir été appelé, après avoir été dans l'église, vous verrez la même chose. Allez à Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe 43 et commencez au verset 1. Ésaïe 43, verset 1. Voici ce que dit le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Pas seulement Jacob, pas seulement Israël, mais toi, moi, nous tous. Verset 2. Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi, et à travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand vous marcherez dans le feu, vous ne serez pas brûlés, et les flammes ne s'allumeront pas sur vous. Frères et sœurs, nous passerons par des incendies dans notre vie. Nous passerons par des épreuves. Nous devrons traverser des eaux spirituelles, mais Dieu dit que nous ne serons pas brûlés. Il se peut qu'il n'éteigne pas le feu parce que, un peu, eh bien, Dieu, je ne veux pas marcher dans le feu. Pourriez-vous simplement éteindre le feu? Il me sera beaucoup plus facile de passer à travers, alors éteins-le. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Vous traverserez des feux, mais ils ne vous brûleront pas. Il se peut que vos vêtements soient un peu abîmés, mais ils ne vous brûleront pas parce que nous avons un Dieu qui nous protège. Et souvent, comme pour tant d'autres choses, et ce message est centré sur le fait de voir les mains et les empreintes de Dieu dans nos vies, nous devons regarder en arrière et le voir. Il peut arriver que vous traversiez une épreuve, que vous regardiez en arrière et que vous vous disiez, cela aurait pu être bien pire. Oh, si j'avais pris cette décision, ou si cela s'était produit, oh là là, cela aurait été bien pire. Mais à un moment donné, Dieu vous a donné un chemin à suivre, n'est-ce pas? Parce qu'il ne va pas vous tenter au-delà de ce que vous êtes capable de faire. Il peut faire très, très chaud, mais ce feu ne va pas vous consumer. Mais regardez en arrière, une fois que l'épreuve est passée, il est si facile pour les êtres humains, nous faisons tous cette erreur, donc nous passons à travers une épreuve, nous sommes reconnaissants et nous continuons notre vie. Arrêtez. C'est un moment clé. C'est le moment où l'on s'arrête et où l'on se dit, d'accord, revenons sur ce procès. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment aurais-je pu agir différemment? Qu'est-ce que Dieu a fait pour m'aider à traverser cette épreuve? C'est tout projet. Si vous adoptez une approche de gestion de projet, à chaque fois qu'un projet se termine, vous regardez toujours en arrière et vous dites, « Bon, qu'avons-nous fait de bien? Qu'avons-nous fait de mal? » C'est ce que nous faisons chaque année après la fête. Nous nous demandons, « Qu'est-ce qui a bien fonctionné pendant la fête? Sur quoi avons-nous dû travailler? Que pouvons-nous améliorer pour l'année prochaine ?» Chaque projet devrait être géré de cette manière. Lorsque vous le clôturez, vous le réanalysez. On en fait l'autopsie. Eh bien, chaque épreuve que nous traversons devrait faire l'objet d'une autopsie, et voir comment Dieu l'a ajustée, modifiée, a ouvert des portes, nous a donné un chemin, et les leçons que nous en avons tirées. Frères et sœurs, ceci est particulièrement important, encore une fois, à l'approche de la Pâque, parce que cela nous aide à nous examiner nous-mêmes. Cela nous aide à voir Dieu dans nos vies. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. C'est l'objet de ce message, voir sa participation active dans nos vies individuelles. C'est essentiel parce que parfois, ce n'est tout simplement pas évident au départ. Parfois, c'est évident. Parfois, vous pourriez être Daniel dans la fournaise ardente, vous y êtes jeté et vous ne brûlez pas, quelle que soit la chaleur, et la protection de Dieu était évidente. Mais d'autres fois, le feu n'est pas physique. La plupart du temps, il est spirituel, et ce n'est que lorsque nous repensons à ces feux spirituels que vous et moi voyons la main de Dieu dans ce que nous avons fait. D'accord? Il s'agit donc d'un travail de recherche d'empreintes digitales, si vous voulez, d'un travail d'investigation pour voir les empreintes digitales de Dieu dans nos vies. Qu'en est-il de la recherche de ces empreintes digitales dans la croissance spirituelle ou la vérité? Qu'en est-il de la possibilité de trouver cela? Parce que la main de Dieu est très impliquée dans la vérité, c'est sa raison d'être. Nous vivons, nous marchons, nous obéissons au sabbat, nous payons la dîme, nous respectons les règles communes et nous ne mangeons pas de porc. Toutes ces choses parce que nous comprenons la vérité, et la vérité comporte de grands et énormes éléments comme le sabbat et de tout petits détails comme le mohair pour les deux témoins. Mais comprendre la vérité signifie que nous comprenons la direction et l'orientation de Dieu. Jean chapitre 6. Et ce n'est pas seulement lui qui donne la vérité à l'Église, c'est aussi nous qui la comprenons. Jean chapitre 6 et verset 44, nous lisons. Nul ne peut venir à moi. Verset 44 de Jean 6. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé l'attire. Nous ne pouvons pas comprendre ce mode de vie si nous ne sommes pas attirés par lui. Notre esprit est ouvert. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Verset 45. Ils seront tous enseignés par Dieu. Tout homme donc qui a entendu et appris du Père vient à moi. Frères et sœurs, Dieu a établi une église. Il a donné à cette église la vérité, et il vous a appelé ou élevé dans cette église. C'est la main de Dieu, de la manière la plus miraculeuse qui soit, car elle existe depuis 2000 ans. Au fil du temps, des flux et des reflux, des épreuves et des persécutions, cette église est restée. Et pour vous, il utilise ce même esprit pour donner un sens à cette vérité. Lorsque notre esprit s'est ouvert, il se peut que vous avez peut-être été quelqu'un de religieux auparavant. Vous avez peut-être lu votre Bible religieusement, et soudain, un verset que vous avez lu maintes et maintes fois a fait tilt et a tout changé. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon auparavant. Je sais que vous l'avez fait parce que nous l'avons fait dans l'Église. Lorsque Dieu a révélé une Église au cours de la dernière décennie, il y a des versets que vous avez lus, que j'ai lus, que M. Peck a lus encore et encore, et puis soudain, c'était le moment, parce que, rappelez-vous, le timing de Dieu est parfait, c'était le moment pour Dieu de révéler une nouvelle vérité. Nous avons lu ce verset ensemble et nous avons pensé, je n'avais jamais vu cela dans ce verset auparavant. Je n'avais jamais compris cela auparavant. Tout récemment, même quelque chose d'aussi simple que la compréhension des anniversaires. Quelque chose d'aussi simple que de confondre l'idée que si quelque chose de mauvais se produit un jour, c'est que le jour était mauvais. Cette compréhension a été pour moi une véritable ampoule. Je me suis dit, bien sûr, si de mauvaises choses se produisent le jour du sabbat, nous ne rejetons pas le sabbat. Et puis tous les autres aspects qui accompagnent cet enseignement. Mais tant de choses que vous et moi apprenons et qui ne sont pas vues ou communes, c'en est une autre, qui est juste tirée à travers le Nouveau Testament, et nous ne l'avons jamais comprise jusqu'à ce qu'elle soit révélée. Et cela a été, cela fait 12, 15 ans, peu importe. Mais c'est un enseignement qui était tout simplement partout dans le Nouveau Testament, mais qui n'a été compris qu'à l'époque moderne. Allez à Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1. Lisons un verset ici. Philippiens, chapitre 1 et verset 6. Le verset 6 dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera au jour de Jésus-Christ. » Donc, jusqu'au jour du Christ, vous et moi sommes une œuvre en cours. Cela dit, c'est Dieu, le potier, et nous, l'argile, qui sommes l'œuvre en cours. Il dit, « Je n'arrêterai pas de construire, de travailler, de développer, de tester, d'essayer, de créer en toi ce qui deviendra un futur être de Dieu. Frères et sœurs, dans nos vies personnelles, c'est ainsi que nous voyons Dieu travailler avec nous de la manière la plus importante. Il est important de voir les petites choses, de tout reconnaître. Mais savez-vous quelle est la meilleure mesure de la présence de Dieu dans votre vie? Comment avez-vous progressé spirituellement hier, le mois dernier, l'année dernière, la décennie écoulée ou tout autre moment passé dans l'Église de Dieu? Vous voyez la main de Dieu, en fin de compte, lorsque vous vous voyez changer spirituellement. Vous la voyez aussi chez les autres, mais il est plus important de se concentrer sur nous-mêmes et sur notre croissance spirituelle parce que la main de Dieu est profondément présente dans notre croissance et dans sa vérité. Ces deux éléments fonctionnent donc ensemble. Ces luttes ou ces épreuves qui se sont produites au fil du temps, lorsque Dieu ouvre votre esprit à une compréhension ou à un verset, ou même lorsque c'est difficile et finalement, c'est juste un déclic parce que vous étudiez, vous demandez des conseils au pasteur, vous avez une question. C'est aussi simple que de se remémorer des habitudes que l'on avait peut-être il y a 10 ans et dont on se disait, « Oh, je ne vais jamais réussir à me débarrasser. » Et vous pouvez y repenser maintenant, parce que nous y réfléchissons et que nous y pensons, comme « Oh là là, c'était une lutte à l'époque. Je n'y pense même plus. » Si nous ne réfléchissons pas et ne méditons pas sur la façon dont nous avons grandi, en particulier à l'approche de la Pâque, il ne sera pas aussi évident de voir la main de Dieu dans notre vie et d'avoir la foi qu'il travaille à travers nous, puis l'expérience, ce qui renforcera la confiance. Et au fur et à mesure que nous lui faisons confiance pour nous guider, nous le suivons de plus près, et ce cycle se poursuit encore et encore. Nous le reconnaissons, nous lui faisons confiance, nous aimons ce qu'il fait en obéissant, puis il guide nos pas et nous nous rapprochons de lui. Notre confiance grandit, notre assurance et notre foi grandissent. C'est la boucle de rétroaction positive que l'on retrouve dans tant d'aspects de ce mode de vie. Plus nous faisons quelque chose, plus nous nous améliorons, et plus nous nous rapprochons de Dieu et lui ressemblons. D'accord, alors que nous commençons à conclure, nous devons aussi reconnaître, et nous en avons parlé, les empreintes de Dieu dans son Église et dans son gouvernement. Les empreintes de Dieu sur son Église et son gouvernement parce qu'il ne travaille pas seulement avec des individus. Il travaille par l'intermédiaire d'une organisation. Il y en a une sur la planète qui a un gouvernement, qui a un ministère, qui travaille avec des frères, des brebis, pour pouvoir les construire et faire toutes les choses dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est pour cela que je suis ici. C'est grâce à l'Église, au travail, au gouvernement, que je suis dans le rôle qui est le mien. C'est la raison pour laquelle on vous a demandé d'organiser ceci ou cela. Vous vous souvenez des opportunités dont nous avons parlé? C'est le rôle de l'Église et du gouvernement de Dieu. Allez à Éphésiens, chapitre 4. D'accord, un simple verset. Aucune organisation sur terre ne bouge comme l'Église de Dieu. Après avoir été ici pendant 3 ans maintenant? 24 ans. 23, 24 ans. 23 ans au siège. Aucune organisation ne peut avancer à cette vitesse ou être capable de changer de direction en un clin d'œil parce qu'il y a de la bureaucratie, de la paperasserie. Non. Pas avec le gouvernement de Dieu. Si quelque chose est jugé bon, nous changeons de vitesse et nous avançons en tant que groupe dans l'unité. Éphésiens, chapitre 4 et verset 11. Le verset 11 dit, « Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. » Pourquoi ? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. C'est pourquoi je fais aujourd'hui un sermon pour aider à perfectionner les saints. Je suis un saint moi aussi. Quand j'étudie et travaille sur un message, cela m'aide à me perfectionner, tout comme j'espère apporter la vérité, la connaissance, la sagesse de Dieu pour vous aider à vous perfectionner pour l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pourquoi Dieu a mis en place l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Passons à la 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Lisez un seul verset. Le verset 15 de la 1 Timothée 3. Mais si je tarde, afin que vous sachiez comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est l'Église de Dieu, la colonne et le fondement de la vérité. La vérité vient à l'Église par son gouvernement, et elle est donnée par un apôtre. Ensuite, tous les autres rangs du ministère, tous les autres rangs, tiennent les bras de l'apôtre et enseignent les choses qui nous ont été enseignées. Tout comme on vous a enseigné, mon travail est d'enseigner les choses qu'on nous a enseignées parce que cela crée l'unité. Vous et moi croyons la même chose. Que donc n'est pas normal? Il y a des gens, il y a des organisations, même au sein de l'Église de Dieu, si vous voulez, qui sont des individus convertis, ils siègent dans des organisations où la personne à côté de croit quelque chose de différent. Et tant qu'ils ne font pas trop de bruit autour de leurs différences, ils peuvent marcher ensemble même s'ils ne sont pas d'accord, et il y a ce courant sous-jacent. Ils n'ont pas l'unité, la paix, les liens qui existent dans la véritable Église de Dieu. La clarté des décisions prises au siège, la sagesse de Dieu qui guide. Frères et sœurs, il arrive que ce qui se passe loin, très loin, n'ait pas de sens sur le moment, mais c'est là que vous et moi faisons confiance à Dieu par l'intermédiaire de son gouvernement. Nous voyons ses empreintes sur tous les aspects de ce que Dieu fait dans l'Église, ici et dans les congrégations du monde entier. Ce n'est pas un hasard. N'oubliez pas que nous sommes tous des pions sur l'échiquier. Nous devrions tous chercher et trouver les empreintes de Dieu dans notre vie. Nous sommes manœuvrés comme il l'entend, tant que nous ne résistons pas. Ne supposez donc pas que si quelqu'un est déplacé, c'est que c'est mal fait, car Dieu déplace ce pion tout comme il le fait pour vous. Dieu déplace son quartier général tout comme il vous déplace. Ne supposez jamais et ne remettez jamais en question ce que vous voyez se produire. Vous pouvez avoir des questions, mais être critique est différent d'avoir des questions. Faites confiance à la main de Dieu qui guide son travail dans son Église. Matthieu, chapitre 16 et verset 18. Matthieu, chapitre 16 et verset 18. Quelques versets supplémentaires ici. Matthieu, chapitre 16 et verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Verset classique ici pour comprendre l'Église, et sur cette pierre. Qui était Christ, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer, la tombe, ne prévaudront jamais contre elle. Au cours des 2000 dernières années, Dieu a tenu cette promesse. L'Église est devenue petite. Elle est devenue grande, elle est redevenue petite, puis grande. Il a traversé les époques, mais à aucun moment il n'a disparu. À aucun moment la tombe, l'enfer, ne l'a détruite. Satan. Et il continue à le faire aujourd'hui. Nous sommes ici, alors allons dans les Actes des Apôtres. Actes, chapitre 2, verset 47. Actes, chapitre 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église des gens qui devaient être sauvés. Presque chaque jour, quelqu'un est invité dans l'Église de Dieu. Presque chaque jour, plusieurs fois par semaine, au minimum, de nouveaux êtres humains sont appelés et invités à vivre ce mode de vie. Dieu fait grandir son Église. Il augmente le nombre de ceux qu'il veut voir faire partie de ses 144 000. Voyez cette croissance. Comprenez-la. Demandez à Dieu d'ouvrir des portes. Demandez, priez pour que les choses arrivent au bon moment. Soyez enthousiaste lorsque vous entendez des histoires de portes qui s'ouvrent ou d'obstacles qui disparaissent, de croissance et de développement de l'Église, ou de choses aussi simples que le remboursement de notre prêt qui nous permet d'atteindre le royaume de Dieu, bien sûr, comme l'a expliqué M. Pack. Ou préférez-vous travailler? Mais nous sommes dans une position où Dieu nous bénit, quel que soit le temps qu'il nous reste. Voyez ces empreintes sur la manière dont nous nous développons, dont nous grandissons, dont Dieu bénit le siège, dont il apporte la vérité dans l'Église, par le biais de la structure et du gouvernement de Dieu. Vous le faites dans vos congrégations locales. Les salles où vous vous réunissez, que nous pratiquons dans le monde entier, sont plus belles que lorsque vous avez commencé à vous y réunir. Vous avez nettoyé les sols, vous avez peint les murs, vous avez amélioré l'endroit où vous vous réunissez parce que vous l'avez laissé meilleur que vous ne l'avez trouvé. C'est la voie de Dieu. C'est pourquoi le campus est important parce qu'il montre et reflète ce qu'est Dieu aux personnes qui voient les choses physiquement, parce que vous, le travail, nous tous, collectivement, devenons une lumière pour ce monde. Et la qualité. N'oubliez pas que l'Église est dirigée par Dieu et par ceux qui se trouvent en dessous d'elle. Les empreintes de Dieu sont partout dans ce travail, dans vos vies, dans les individus, dans les congrégations, dans les portes ouvertes. Il ne s'agit pas d'une simple organisation, mes frères, mais du corps du Christ. C'est Dieu qui conduit les êtres humains vers le royaume de Dieu, pour qu'ils fassent partie de la famille de Dieu. Vous êtes ces êtres humains, et moi aussi. Rappelez-vous que la foi et l'expérience construisent la confiance et vous aident à suivre ce chemin de vie. Donc, plus nous regardons les empreintes de Dieu, plus nous cherchons sa main dans nos vies, plus nous lui faisons confiance. Nous aurons confiance. Vous et moi grandirons. Plus nous regardons et examinons, plus nous nous rapprochons de lui. Sa main guide votre vie, guide la mienne. Alors, mes frères, surtout à l'approche des jours saints du printemps, examinez-vous, regardez profondément et trouvez les empreintes de Dieu dans votre vie.